Alors devinez sur quoi je vais parler aujourd'hui. La résurrection, d'une manière ou une autre. C'est un petit peu passé, c'est pas évident d'être pasteur parce que il y a certaines dates comme Noël, comme Pâques, où il faut toujours revenir sur le même sujet. Donc c'est pas toujours évident d'avoir des nouveautés, si je peux le dire. Et surtout que nous, à Pâques, on fait deux messages, puisqu'il y avait un message la semaine dernière et un message cette semaine. Je vais quand même pas me répéter. Donc j'ai intitulé mon message La grâce du ressuscité. Et cette semaine, j'ai lu une histoire assez intéressante. Peut-être que vous l'avez lu aussi parce que je l'ai trouvé dans ce petit, vous allez voir, tac, dans un petit bouquin qui s'appelle Notre pain quotidien. Voici ce que j'ai lu. Bruit, vibration, pression, boule de feu. Voilà des mots que l'astronaute canadien Chris Hadfield a utilisés pour décrire ce qu'on ressent lorsqu'on est propulsé dans l'espace. Tandis que la fusée filait vers la Station Spatiale Internationale, le poids de la gravité augmentait et la respiration devenait plus difficile. Juste au moment où Hadfield croyait qu'il allait s'évanouir, la fusée a fait une entrée fracassante dans l'apesanteur. Et au lieu de perdre connaissance, il a éclaté de rire. Alors c'est vrai que j'ai réfléchi à cette description, je n'ai jamais eu le privilège d'être astronaute, mais ça me donne vraiment envie quand je dis ça. Parce que cette description m'a fait penser en fait au jour où moi-même j'ai cru en Jésus-Christ pour mon salut le 2 novembre 1976 en Inde. En une fraction de seconde, je me rappelle si bien, moi qui étais accablé par le poids de mon péché, j'ai été instantanément gracié et pardonné pour tout le mal que j'avais commis dans ma vie. Dans cette même fraction de seconde, je suis passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. J'ai été littéralement, on y reviendra, ressuscité avec Christ à cet instant. C'est comme si je venais de passer de la lourdeur de la vie à l'apaisanteur spirituel. Alors, je ne me rappelle honnêtement pas si à ce moment-là, j'ai éclaté de rire. Mais ce n'est pas impossible me connaissant. Mais ce dont je me rappelle si bien, c'est la légèreté que j'ai ressentie juste après avoir lâché ma vie à Jésus-Christ. Ouais, cette légèreté, c'est comme si un poids, et ça je le décris lorsque je donne mon témoignage, ce poids que j'ai ressenti enlevé de mes épaules instantanément. Ouais, c'est presque comme si je flottais dans l'apaisanteur. En fait, je venais d'être ressuscité avec Christ, et ça tombe bien, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? La résurrection de Christ. Prenez vos Bibles avec moi, à Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, et nous allons voir ce qui se passe au moment où on rencontre Christ. C'est assez époustouflant. Alors, je vais en premier lire les versets 1 à 3 qui décrivent la condition spirituelle d'un non-croyant. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, d'accord ? Paul écrit Éphésiens, il dit ceci, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors cette description en trois versets de notre condition sans Christ nous dit, alors je résume, premièrement, que nous sommes morts. Verset 1, Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc spirituellement, nous étions morts. Deuxièmement, nous étions esclaves du monde. Troisièmement, nous étions esclaves de Satan. Quatrièmement, nous étions esclaves de la chair. Cinquièmement, nous étions destinés au jugement. Donc ça, c'est la condition de chacun et chacune de nous avant de connaître Christ. Alors on se pose la question, mais alors comment est-ce que quelqu'un dans cet état peut en fait rencontrer Dieu ? Comment est-ce qu'il peut recevoir une nouvelle vie de la part de Dieu ? Eh bien, la réponse est simple, il faut un miracle. Il faut un miracle. Et ce miracle s'appelle la grâce. La grâce, c'est ce miracle qui nous propulse dans la présence de Dieu, dans l'apaisanteur spirituel. Et sans cette grâce, on ne peut rien faire parce que nous sommes morts. Et un mort ne peut rien faire. Et à partir du verset 4, Paul décrit cette grâce. Il décrit cette grâce. Cette grâce incompréhensible de Dieu à l'égard des non-croyants. Et vous allez voir combien la résurrection de Jésus est liée à cela. Alors je vais lire à partir du verset 4. Mais Dieu, ah, c'est génial, ah le contraste, nous étions morts, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ah mes amis, ça c'est un texte sensationnel. En fait ce texte décrit la grâce de Dieu à l'égard des non-croyants de manière merveilleuse. Il nous décrit 5 facettes de cette grâce, d'accord ? On va les prendre à la fois, c'est très simple. Premièrement, la source de la grâce de Dieu. La source de la grâce de Dieu. Ben regardez, le verset 4, j'ai déjà exprimé mon étonnement, cette beauté de ces premiers mots. Mais Dieu, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Mais oui, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de changer notre vie, personne d'autre. Pourquoi ? Deux attributs ressortent, à cause premièrement de sa miséricorde, il est riche en miséricorde. C'est une pitié ressentie par quelqu'un pour la souffrance d'autrui. Il nous a regardé, il a dit, pauvre John, franchement là, tu fais pitié. C'est exactement ce qu'il a vu en me regardant et en vous regardant. Et ensuite, son amour, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, c'est le mot agapé ici. Alors ça, c'est absolument fantastique. Je ne peux pas l'expliquer, mais je peux vous dire ce que le texte dit. Cet amour de Dieu, regardez au verset 4 du chapitre 1, quand il a commencé. Et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Écoutez, là, ça me dépasse complètement, mais l'amour qu'il a ressenti pour moi, il a eu lieu avant la fondation du monde. Qui veut dire avant même que je sois né. Et ça, c'est que le début de l'incompréhension, mes amis. Alors, il faut savoir aussi que L'amour de Dieu à notre égard n'était pas gratuit, car la Bible nous montre que l'amour de Dieu envers nous, qui était la source de notre salut, n'était pas gratuit. Non, Dieu a sacrifié son propre Fils, tellement il m'a aimé, pour que son Fils meure à ma place. Moi, il m'a regardé, il me disait, John, tu fais pitié. Mon Fils, saint de toute éternité, je vais le donner pour qu'il meure à ta place. Il avait combien de fils ? Un. Fils unique, Jean 3,16. Et il l'a donné pour moi. Ça, c'est son grand amour. Son grand amour. Oui, la grâce fut payée à grand prix. Deux. Ça, c'est la source de la grâce. Deux, le mécanisme de la grâce de Dieu à notre égard. Écoutez, là, c'est fantastique de nouveau. C'est fantastique. On est au chapitre 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. En fait, il y a trois verbes actifs. On va voir comment Dieu nous a graciés, d'accord ? Première chose qu'il fait, c'est qu'il nous a rendus vivants. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Alors écoutez, je vous pose une question. Que veut dire le mot mort ? C'est important, parce qu'il dit qu'on est mort ici, donc on est sans vie. Donc, mais on était quand même vivant. Donc, apparemment, il parle de quelque chose de spirituel. Spirituellement, nous étions morts dans nos péchés. C'est ce qu'il dit, d'accord ? Mort spirituellement. Ça veut dire que si je suis mort spirituellement, ça veut dire qu'en tant que mort, il n'y a aucune communication possible avec Dieu qui est vivant. Moi, je suis mort, lui, il est vivant. Comme un mort ne peut pas parler avec les vivants, les morts spirituels ne peuvent pas parler avec Dieu. Si tu touches un mort avec une aiguille, rien ne se passe. Tu peux lui parler, tu peux lui crier dans l'oreille, il n'entend rien. Il n'a ni faim, ni soif, ni émotion, rien. Il est mort. Un mort, c'est un cadavre. Il est donc totalement séparé de Dieu. Il n'y a aucune vie en lui vis-à-vis de Dieu. Il est incapable d'apprécier quoi que ce soit de Dieu. Il n'y a rien en lui qui puisse plaire à Dieu puisqu'il est mort. Il n'est pas malade, il est mort. Il n'a pas besoin d'être guéri, il n'est pas malade. Il est mort. Qu'est-ce qu'un mort a besoin d'avoir pour vivre ? Il a besoin d'être ressuscité. Et donc c'est ce qu'il dit. Il nous rend vivants. Et comme c'est dingue ce truc qu'on y pense. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Waouh ! Donc, regardez ce qu'il est dit. Le texte dit qu'il nous rend, il nous a rendus vivants avec Christ. Donc, lorsque Christ est ressuscité des morts, d'une manière mystérieuse, nous sommes ressuscités avec lui. Nous qui étions morts spirituellement, nous sommes maintenant, puisqu'il nous a rendu la vie, nous sommes maintenant vivants spirituellement. Il n'y avait aucune communication entre nous et Dieu, il y a maintenant une réelle communication vivante entre nous et Dieu. Nous ne pouvions parler avec les vivants en tant que morts, maintenant nous pouvons parler avec celui qui est vivant, Dieu. Tu touches un mort avec une aiguille, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, tu touches une personne avec une aiguille et il réagit. Maintenant, je réagis spirituellement. Tu peux lui parler, lui crier dans l'oreille, il entend tout, il sent tout. Oui, il est vivant. Avant, il ne pouvait rien apprécier de Dieu. Maintenant, en tant que vivant, il peut tout apprécier de Dieu. C'est, j'ai entendu dire, je ne peux pas le citer, mais je vais le citer parce que j'ai entendu dire, et ce que j'entends apparemment c'est vrai, mais on m'a dit que Bill Gates a dit une fois que d'aller au culte le dimanche, c'est une perte de temps. Alors je ne sais pas s'il a vraiment dit ça, mais c'est ce que j'ai entendu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui motive des gens comme nous de nous lever le dimanche matin, pendant que les autres font la grâce matinée, bon ce matin c'était un petit peu particulier, d'accord, et d'aller au culte? Non mais il faut être malade pour faire ça. Non, il faut être ressuscité. Eh oui, il faut être vivant en Christ, parce que soudainement, nous avons envie de communiquer avec le et les vivants. Notre plus grand plaisir, c'est d'être dans la présence de Dieu et dans la présence d'autres personnes qui connaissent Dieu. Et le monde nous regarde et dit, mais vous êtes fous, vous perdez votre temps. Nous, on ne perd pas notre temps. C'est génial d'être ici. Et c'est marrant, juste après ce point, le fait que Dieu nous rend vivants, Paul y rajoute en parenthèse, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Après cette pensée à elle seule, le fait que Dieu donne la vie aux morts, Paul exprime déjà sa conclusion. Il dit, mais je ne peux rien faire pour recevoir ça. Si Dieu me donne la vie, ben c'est un miracle, c'est la grâce de Dieu, je suis mort. Paul a bien saisi le fait que nous sommes morts spirituellement lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur. On est encore sous le deuxième point, deuxième sous-point, les trois actions de Dieu. Deuxièmement, il nous ressuscite. Regardez verset 6. Ça, c'est fou. Éphésiens 2, 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. On s'arrête là. Colossiens 2, 12, Colossiens 3, 1, dit exactement la même chose. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alors écoutez, c'est intéressant. Paul est vivant lorsqu'il écrit ces paroles. Regardez le temps du verbe. Passé. Pourtant, il est vivant. Il dit, et il est encore, il est sur terre, quoi. Il est sur terre, en train d'écrire sur parchemin l'épître à l'Éphésien, puis il dit, il nous a passé ressuscité. C'est donc pas une référence à notre résurrection future, qui aura aussi lieu le plus tard, lorsque nous allons quitter notre corps et rejoindre Dieu là-haut directement. Mais il parle d'une résurrection spirituelle, cette résurrection qui nous a donné la vie, une résurrection présente, qui est liée mystérieusement à la résurrection de Christ. Donc, une personne qui est sauvée par grâce, donc je me prends moi comme exemple, 2 novembre 1976, à cet instant où j'ai cru en Christ et j'ai reconnu mon péché, je me suis repenti et Christ, et à ce moment-là, il m'a rendu la vie et il m'a ressuscité avec lui. J'étais littéralement, bien que invisiblement, ressuscité avec Christ. C'est une résurrection positionnelle, si vous voulez, mais bien réelle. Vous dites, mais comment c'est possible? Parce que Matthieu 28 nous dit, Jésus a dit quoi? Verset 18, Jésus s'étant approché leur dit ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous allez voir, Dieu c'est Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Ce n'est pas un problème de nous ressusciter spirituellement. C'est fait. Et c'est pour ça, justement, dans Colossiens 3, Paul écrira, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Ben, c'est logique. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça, on y reviendra. Troisième chose qu'on voit dans le mécanisme de la grâce, c'est que Dieu nous fait asseoir avec Christ. Alors, attendez, voilà, vous êtes déjà un petit peu étonné du mystère. Là, on va dans le mystère complet. D'accord? C'est incroyable. Dans Éphésiens 2, verset 6, il dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Honnêtement, je suis dépassé par ma capacité de pouvoir vous décrire ça. Je vais quand même essayer. Dieu nous fait asseoir ensemble avec Christ. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Éphésiens 1:20 nous dit que Christ est déjà assis à la droite du Père. N'est-ce pas? Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Bon. Donc Christ est ressuscité, il est monté au ciel et il s'est assis à la droite du Père. C'est pour ça que la suite, dans Éphésiens 20 ans, il est au-dessus de toute dénomination, de domination, de toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom. Il est au-dessus de tout. C'est pour ça que Éphésiens 3 nous dit, ça c'est vraiment génial, « Béni soit le Dieu du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, donc nous, vous et moi, nous qui connaissons le Seigneur, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Donc, comment est-ce qu'on peut déjà être béni de toutes les bénédictions célestes en Christ si on est encore là? Parce qu'on a été ressuscité. Et on est assis avec lui à la droite du Père. Vous dites, mais pourquoi? Pourquoi pas à gauche et pourquoi pas debout? Ah, bonne question. La droite était la place d'honneur. Être assis montre que la chose est faite. C'est accompli. Nous sommes citoyens des cieux. Philippiens 3:20. C'est fait. C'est accompli. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, tu crois pas qu'on peut perdre son salut? Je me dis, toi, perdre son salut? Tu reçois tout ça? Comment tu peux perdre ça? C'est même pas logique. Mais c'est fou ce qui nous a été donné. C'est pour ça que Paul répète, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. C'est la grâce, c'est incroyable. Alors voilà le dilemme, mes amis. Voilà le dilemme du chrétien aujourd'hui. Ces choses, vous le savez. Positionnellement, on est avec Christ à la droite du Père, dans les lieux célestes. Il nous a ressuscité avec lui. Il nous a donné la vie. On est béni avec lui. Mais, on est encore sur terre. Dans un monde horriblement déchu. Dans une chair qui nous colle à la peau. Et voilà la lutte. Est-ce que ma vie sur terre reflète ma vie spirituelle de ressuscité? Eh bien, la réponse est non. Bienvenue à ce mot qui s'appelle la sanctification, ce progrès pénible de notre amélioration physique et humaine, si on veut, qui colle à cette perfection qui nous a déjà été donnée. Alors, quand on monte, c'est super, et quand on chute, ça déprime, c'est normal, parce qu'on connaît ce Dieu parfait. Trois, le but de la grâce. Regardez Éphésiens 2, verset 7. Afin de, écoutez, c'est franchement incroyable. Verset 6, il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de, quel est le but? Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Regardez ce qu'il dit. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je décrypte, d'accord? Qu'est-ce que Dieu veut faire ici? Pourquoi nous a-t-il donné la vie? Nous a-t-il dit ressuscité? Nous a fait satisfier, asseoir à la droite de Dieu? Mais il le dit ici, afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il veut montrer combien sa grâce envers nous est riche. Combien il était bon envers nous en Jésus-Christ. Il veut que tout le monde le voie. Tout le monde. Mais quand va-t-il montrer? Mais il le dit, dans les siècles à venir. Donc, à partir du moment où Paul écrivait Éphésiens, donc, à partir de ce temps et après, jusqu'à l'éternité, Dieu veut montrer sa grâce. Oui, mais vous dites, mais à qui est-ce qu'il veut montrer sa grâce? Prenons deux groupes d'êtres. Un, les humains. Il démontre sa grâce jour après jour aux hommes depuis le premier siècle. Chaque fois que quelqu'un vient à Christ, et cette personne dans son zèle commence à dire à d'autres, « Écoute, j'ai rencontré le Seigneur aujourd'hui. » Les gens regardent et disent, « Quoi ?»« Ouais, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été pardonné, il m'a gracié, il m'a rendu la vie, il m'a ressuscité, je suis assis à la droite du Père. Oh, »« T'es malade ou quoi ?»« Non, je suis ressuscité. »« Non, mais j'y comprends rien. » Ben oui, cette personne dans son zèle décrit quelque chose que cette personne maintenant est intriguée. C'est exactement ce que Dieu veut. Il veut montrer sa grâce aux hommes, mais aussi aux anges. Aux anges. 1 Pierre 1,12 dit ceci. Il leur fut révélé, parlant des gens des prophètes de l'Ancien Testament, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Voyez-vous, les anges sont intrigués par cette grâce parce qu'un ange déchu est déchu pour l'éternité. Il ne peut jamais connaître la grâce de Dieu. Un démon, c'est un démon. Et les anges du ciel voient que les démons ne peuvent jamais être sauvés, mais voient que les hommes peuvent l'être. Et ils sont époustouflés par cette grâce. Donc ça, c'est le mécanisme, le but de la grâce de Dieu. Le but que Dieu montre cette grâce aux hommes. 4. La réception de la grâce de Dieu. Tu dis, mais c'est quand même incroyable. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ben écoutez, je me dis, si Christ est vraiment ressuscité des morts, ça veut dire qu'il a tout le pouvoir sur la mort. Donc de faire tout ça, c'est pas un problème pour lui. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur va peut-être se dire, mais attends, est-ce que moi je peux avoir ça aussi? Oui. Mais comment? Ah, bonne question. La suite des versets. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. On apprend 2 choses ici, c'est tout simple. Que cette grâce qui nous donne le salut se reçoit par la foi. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, confession, juste à côté de chez moi, on sort de l'autoroute, puis on stoppe. Puis bon, tard le soir, des fois, on ralentit peut-être pas autant qu'on devrait. Alors ce fameux soir, il y a quelques années en arrière, je crois que j'ai même pas ralenti du tout. J'ai grillé le stop, et quelques secondes plus tard, il y avait un flic, il m'a arrêté. Ah, j'ai dit, aïe. 4 points, je crois que c'était 200 euros. Tac, vous savez, nous on a 12 points en France. Alors là, rien à faire, tac. Terminé, je rentre chez moi tout doucement. Quelques jours plus tard, je reviens de Genève pour une réunion de prière très spirituelle. Je traverse la douane de Croix-de-Rozon, puis il y avait un gros camion qui gênait la route et tout. Et puis j'étais très fatigué, il fallait absolument que je rentre chez moi rapidement. Donc bref, j'ai contourné le camion, j'ai pas vu le feu rouge, je suis tourné, et là... Aïe, c'était que quelques jours, je venais de perdre 4 points, j'avais déjà 200 euros de moins dans mon compte banquier. Aïe. Alors je sors de ma voiture et je vois l'agent devant moi et je dis, monsieur l'agent, je suis coupable, 100% coupable, vous m'avez chopé en délit, je vous demande pardon, vraiment. Alors il m'explique l'infraction que je venais de commettre, il a raison sur tout, je lui donne raison. Et ensuite je lui dis, monsieur l'agent, puis-je vous demander de me gracier? dit « j'ai rien à perdre ». S'il dit non, j'ai encore 4 points et encore 200 euros. S'il dit oui, j'ai tout gagné. Donc je demande avec un grand sourire, mais honnêtement et gentiment, écoutez, voilà, écoutez, oui, je suis fautif. Est-ce que vous pourriez me gracier ? Vous savez ce qu'il me dit ? Allez, monsieur, c'est bon, circulez et ne recommencez pas. J'ai dit, quoi ? J'ai dit, non, mais franchement, il a dit, ouais. J'ai dit, vous me graciez ? Ouais, mais pourquoi ? Mais, non, j'aurais pas dû lui poser ces questions, d'accord ? J'ai dit, mais vous me graciez complètement, là ? Oui ! J'avais envie de l'embrasser. Je l'ai pas fait, je me suis retenu, d'accord ? Je lui dis merci, écoutez, ensuite je lui dis après, hein, je suis pasteur, je vais vous donner une copie d'un livre, et donc je l'ai amené à la gendarmerie le lendemain, j'ai amené un petit mot le remercier et un livre. Tellement ça m'a frappé qu'il me gracie comme ça. Alors vous savez, c'est intéressant, j'étais gracié, devinez à quelle vitesse je suis rentré à la maison. Voyez-vous, la grâce a un effet sur le comportement de quelqu'un. Alors, pour que cet agent me gracie, pensez une chose. Vous savez qui a payé ma dette ? L'État. L'État a payé ma dette. L'État n'a pas reçu les 200 euros qu'elle aurait dû recevoir. Donc finalement, c'est l'État qui a payé ma dette. Et deuxièmement, j'ai admis ma faute. J'étais prêt à la payer. Mais tout ce que j'ai fait, c'est de confesser ma faute à l'agent. Et ce jour-là, l'agent m'a dit, tu es gracié. Mes amis, c'est aussi simple que ça avec Dieu. C'est aussi simple que ça. La dette envers Dieu est trop énorme pour que nous puissions la payer. C'est impossible. Impossible. Le salaire du péché, c'est la mort. Il suffit de lui demander. Dieu, peux-tu me gracier ? Oui. Et c'est moi qui paye la dette, mon fils. Voyez-vous, cette grâce se reçoit par la foi, pas par un effort humain. C'est un don de Dieu, c'est ce que le verset dit, 8 et 9, n'est-ce pas ? Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cet agent m'a fait un cadeau. Dieu nous fait un cadeau gratuit pour nous. Pour aucune raison, sauf qu'il est motivé par sa miséricorde et son amour à notre égard. Et au verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais oui, ce n'est pas par les œuvres. Écoutez, franchement, si je suis mort, quelle œuvre puis-je faire en tant que mort pour me rendre vivant ? C'est ridicule. Sans un acte miraculeux de la part de Dieu, c'est fini, mes amis. On meurt dans notre péché, c'est ce que Jésus a dit. Et on paye la pleine conséquence de notre péché, les peines éternelles, séparation éternelle de Dieu vivant. C'est logique. C'est logique. C'est pour ça que Paul répète, c'est par la grâce, c'est un don, c'est gratuit. Alors maintenant, regardez, quel est le résultat de cette grâce ? Le verset 10, car... Alors il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est intéressant, lorsqu'il dit que nous sommes son ouvrage, ici ça parle d'une œuvre d'art. Nous sommes une œuvre d'art. Ben, puisqu'on était mort, c'est comme, je ne sais pas, moi je ne suis pas potier, mais je me dis qu'un potier, ben, il prend une masse informe de terre, et il façonne un beau vase. Exactement ce que Dieu fait avec nous. une œuvre d'art. C'est le même mot de Romains 1:20 qui parle de la création de Dieu dans l'univers. Tout ce qu'il a créé, c'est son œuvre d'art. Mais nous aussi, nous sommes son ouvrage. On a été créé en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'on est ressuscité avec lui pour de bonnes œuvres. Écoutez, ça c'est vraiment intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai été créé pour refléter par ma vie ressuscitée sur terre les œuvres de Dieu ? Voilà, c'est ce qu'il dit. Et ça c'est intéressant, de nouveau c'est un mystère. Quelles œuvres ? Des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Waouh ! Il m'a déjà aimé avant la fondation du monde. Apparemment, les œuvres que je dois pratiquer, elles ont été déjà créées avant la fondation du monde. Là, j'y comprends rien. Mais c'est ce que le texte dit. Et c'est clair. Il dit « afin que nous les pratiquions ». C'est très intéressant. C'est de l'actif. Un chrétien n'est pas passif. Il est actif. Il ne peut pas ne pas pratiquer ses œuvres. Je me dis, on est ressuscité. Ben, on va quand même refléter quelque chose de différent que lorsqu'on était mort. Je sais pas, de nouveau, c'est la logique des choses. Quoi ? Qu'est-ce qu'on va refléter ? Ben, c'est ce qu'il dit. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Des œuvres de justice. Alors, quelles œuvres ? Soyons spécifiques. C'est là où c'est génial. Il faut continuer à lire Éphésiens. Et il devient extrêmement concret et pratique. Alors, il continue son élaboration théologique, chapitre 3. On passe. On arrive au chapitre 4. Allez avec moi, Éphésiens 4.1. Regardez, on va aller vite. Mais regardez les bonnes œuvres qu'un chrétien ressuscité va automatiquement, techniquement, automatiquement accomplir. 4.1. Je vous exhorte donc, à cause de tout ce qu'il vient de dire, cette grâce, je vous exhorte à faire quoi ? Ben regardez verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Déjà, les chrétiens devraient être unis dans l'esprit. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Respectez ceux que Dieu a placés dans l'église pour la mener. On continue. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Eh bien, chacun va vouloir servir dans l'œuvre du ministère. Un chrétien veut servir selon les dons que Dieu lui a donnés. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ma vie est différente que la vie d'un païen, d'un non-chrétien, de ma vie avant. Il y a un changement. Je vis comme un ressuscité, plus comme un mort. C'est ce qu'il dit. Soyez encore plus spécifique, verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Ben voilà, ça c'est pratique. Avant, ben, peut-être que le mensonge, vous y pensiez même pas. Maintenant, c'est fini. Maintenant, le chrétien dit la vérité, il ne ment pas. Ça ne peut pas être plus pratique. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. On peut se mettre en colère pour des choses qui justifient la colère, le péché, mais il ne faut jamais laisser la colère aller trop loin. Il faut la régler avant même le coucher du soleil. Pourquoi ? Parce que le diable peut avoir accès. Donc, un chrétien règle ses problèmes rapidement. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Peut-être il y a des gens qui étaient voleurs, peut-être des paresseux, qui ne voulaient pas travailler, qui profitaient des autres. C'est fini. Un chrétien, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il travaille de ses mains. S'il peut, bien sûr, hein, moins qu'il ne trouve pas de travail. Mais il veut travailler. Il gagne pour pouvoir partager et aider avec les autres. Ça, c'est pratique. Pas de paresseux en tant que chrétien. Ouh, ça c'est vraiment pratique. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les gros mots, Dieu il fait quelque chose dans la langue et la bouche du chrétien. Maintenant, il communique des choses qui édifient la grâce. Alors bien sûr, ça peut arriver, bien sûr. Toutes ces choses, on peut retomber malheureusement puisqu'on est encore dans cette chair. Mais la courbe va en montant vers le progrès. C'est tellement pratique, n'est-ce pas? Regardez verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Mais oui, le chrétien sait qu'il a été pardonné. Maintenant, il peut avoir des conflits avec quelqu'un, mais vous savez, il est rapide à pardonner. Il est rapide à demander pardon. Il lâche et il laisse. Et il ne se souvient plus de ces choses. C'est beau, hein? Verset 31, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc un chrétien devrait ne pas être amer, pas d'amertume, ni d'animosité, colère, clameur, calomnie, méchanceté, toutes ces choses disparaissent avec le temps. Écoutez, c'est révolutionnaire, franchement. C'est révolutionnaire. Ça, c'est que le début. Chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Si tu aimais t'enivrer avec le vin, c'est fini, ça. On s'enivre plus. On est rempli de l'esprit. L'esprit, c'est celui qui règne dans la vie. Quel est le résultat? Vous savez quoi? On va aimer chanter. C'est intéressant, vous savez, ce matin, on est allé dans une autre église. Ils chantent. Pourquoi est-ce qu'on chante dans les églises? Tu as donné un très bon message là-dessus. Merci. C'est intéressant. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges au Seigneur. Mais écoute, quand tu es ressuscité, tu veux remercier le Seigneur, c'est lui qui a créé la musique, tu chantes. C'est pour ça qu'on pense. On passe tellement de temps à chanter. C'est génial. Un chrétien qui n'aime pas chanter, c'est qu'il est ressuscité. Ça ne veut pas dire qu'il sait bien chanter. Mais tu peux chanter, même si tu chantes faux. Tu peux chanter, vas-y. Là, tu peux te lâcher. C'est génial quand même. Verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toute chose. » Un chrétien est reconnaissant. Il est reconnaissant. Et ça continue. Femme, verset 22, « Que chacune soit soumise à son mari. » Une femme sait, elle comprend son rôle. Marie, verset 23, « Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et sacrifie pour elle. » Un mari chrétien va aimer sa femme différemment que quelqu'un dans le monde. Son amour va être un amour agapé. Une femme pour son mari va être agapée, va un désir de sacrifier, d'honorer l'autre. Dans le monde, c'est « je t'aime, donne-moi ce que je veux ». Et puis quand tu donnes plus, tchac, terminé. C'est le contraire pour le chrétien. « je t'aime, point la ligne et je t'aimerai encore ». Verset 1 du chapitre 6. « Enfants, obéissez à vos parents ». Un enfant chrétien obéit à ses parents. Même s'il n'est pas chrétien, les parents lui font obéir. D'accord ? Il y a une loi à la maison, c'est l'enfant qui obéit aux parents, et c'est pas le contraire. Ce qui est malheureusement le cas souvent aujourd'hui. Et vous, pères, verset 4, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité. Et verset 9, si vous êtes maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. C'est pratique, vous ne trouvez pas? Tellement pratique. Je conclue. Chris Hadfield nous a dit que lorsque sa fusée filait vers la station spatiale internationale, le poids de la gravité augmentait et la respiration devenait plus difficile. Au moment... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Quoi ? Ah, plus pile ! Ah, ça, c'est vraiment la meilleure. Peut-être c'est un signe que je dois arrêter de parler. Christ had... Ouh là là, ça marche. J'en étais où ? Ouais, donc il pouvait plus respirer, d'accord ? Juste au moment où Hadfield croyait s'évanouir, la fusée a fait une entrée fracassante dans l'apesanteur et au lieu de perdre connaissance, il a éclaté de rire. Je me demande, bien aimé, si nous pensions plus à notre résurrection actuelle en Christ, si nous aussi, nous n'éclaterions pas de rire un peu plus souvent. Que le Seigneur nous aide à nous rappeler que nous sommes plus morts, mais ressuscités. Est-ce que je peux entendre un amen ? Seigneur, merci de tout cœur pour notre résurrection en Christ. Merci Seigneur pour ces versets franchement étonnants. Seigneur, aide-nous jour après jour à être hommes, femmes et enfants qui appliquons ces vérités, Seigneur. Pas par nos efforts, mais parce que ces œuvres, tu les as créées avant la fondation du monde pour que nous les pratiquions à cause de notre nouvelle vie, notre résurrection et le fait que nous sommes actuellement assis avec Christ à la droite du Père. Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.